Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
À présent, nous poursuivons le deuxième volet de l'émission sur les merveilleux francophiles argentins que maintenant les auditeurs peuvent trouver facilement dans la médiathèque. Donc, deuxième émission. Pour comprendre une bonne partie des relations entre la France et l'Argentine, il faut tenir compte des liens profonds historiques qui ont existé entre ce pays particulièrement attachant et la France. Et pour cela, rappeler d'une part l'influence des grands penseurs de l'encyclopédie et d'autre part l'influence de la révolution de Napoléon, lequel a permis, comme vous le savez, l'indépendance de cette colonie espagnole. Aussi bien que la médecine, la recherche scientifique et le droit argentin ont des racines françaises, c'est ce qui explique bien évidemment les très nombreuses relations culturelles, pour ne parler que d'elles, entre la France et l'Argentine. Alors au fil des heures et des jours et des voyages, je pénètre peu à peu dans l'univers coloré décrit par des écrivains argentins fort talentueux. L'un d'entre eux a laissé une empreinte très forte sur les consciences. Il s'agit de Eduardo Malea, qui est né en 1903, qui est mort en 1982. Personnage peu connu encore en France, sauf dans les milieux très lettrés. Mais Eduardo Malea est l'auteur d'un livre absolument passionnant qui s'appelle « Histoire d'une passion argentine » aux éditions Sur Buenos Aires 1937. C'est l'un d'entre eux, cet écrivain, c'est-à-dire Eduardo Malea, qu'estimait le plus Victoria Ocampo, qui a déclaré que sans lui, la revue Sur n'aurait pas existé. C'est la plus grande revue culturelle argentine de l'époque. Sans lui, estimait Victoria Ocampo, la revue Sur n'aurait pas existé. Il occupera avec modestie le poste de directeur de la rédaction. Romancier de l'angoisse humaine, rappelons qu'il a notamment écrit « L'histoire d'une passion argentine », je l'ai dit il y a un instant, « La baie du silence » et « Les contes pour une Anglaise désespérée ». Selon Odile Baron Supervielle, petite fille de Supervielle, nièce de Supervielle, Malea est un maître à qui Borges et Julio Cortázar doivent énormément. Je rappelle une œuvre de Julio Cortázar, Les Autonautes, je dis bien Les Autonautes de la Cosmoroute, Gallimard 1975. Un autre romancier expressionniste, l'élégant Adolfo Bioy Casares, notamment qui a écrit Un champion fragile chez Lafon en 1995, enfin la traduction chez Lafon date de 1995, qui est disparu, lui, Adolfo Bioy Casares, en 1999, adore se moquer gentiment de lui-même. Il faut savoir qu'il a longtemps été le complice de l'étonnant Borges, disparu lui en 1986. Sa langue laconique sculpte des textes courts qui ressemblent parfois à des synopsis. Écrivain ironique, hésitant entre le burlesque et le grotesque, il raconte la manière dont l'illusion sait se servir du réel pour mieux se cacher. Ses textes les plus connus s'intitulent « L'invention de Morel »,« Un champion fragile », je viens de le dire, « Plan d'évasion »,« Le héros des femmes » ou « Une poupée russe ». Et j'en passe. Je donne évidemment, là pour l'instant, les titres en français. Dans « L'invention de Morel », l'un de ses premiers romans, il avait posé la question de la séduction du virtuel et de la disparition, bien avant Jean Baudrillard, les travaux du sociologue Jean Baudrillard. Pour écrire, l'auteur attend d'être habité par une histoire. Dans son œuvre, il n'est pas difficile de retrouver certaines touches chères à Paul Morand, j'y reviendrai dans une autre émission, notamment lorsqu'il cultive le passage de l'existence ordinaire à l'univers du fantastique. Dans Un champion fragile, il est amusant de deviner que l'auteur part d'une scène primitive. Puis, comme François Truffaut l'a fait au cinéma, il glisse vers le thème obsessionnel de l'homme qui aimait les femmes. Son héros, un chauffeur de taxi, sillonne la capitale fédérale. Dieu sait si c'est une cité agréable pour conduire et se balader, en scrutant le visage des dames les plus séduisantes. Autant avouer que cocasserie et larmes sont au rendez-vous. C'est à ce romancier fort original et subtil que Borges, toujours lui, avait confié, je cite, « Sur les trottoirs aujourd'hui, je me sens devenir transparent ». C'est magnifique. En vérité, derrière l'humour et la bravade des meilleurs écrivains argentins, l'on sent parfois monter le bouillonnement du chagrin rentré. Au pays de la libre pampa, l'on connaît aussi le prix de la pudeur et de la souffrance. Autant reconnaître que lorsque l'on évoque la littérature argentine, il est évident que le nom de Borges est au centre de tout. Je vous renvoie une fois de plus à son œuvre parue dans la collection La Pléiade en 1993 et aux nombreux livres sortis sur lui ces dernières années. C'est L'avocat Carlos Valiente Noailles, auteur, personnage, avocat, personnage intéressant, anthropologue, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Los Bosquimanos, publié chez MSC Buenos Aires en 1981. Donc, personnage tout à fait séduisant, qui m'a confié quelques souvenirs uniques sur son ami Borges, qui, souligne-t-il, était le témoignage vivant de deux grandes qualités argentines, le sens de la famille et celui de l'amitié. Un jour, m'a-t-il raconté, en 1985, M. Valente Noailles avait invité le fabuleux aveugle de Buenos Aires, lequel était doté d'une mémoire phénoménale. Au passage, rappelons que Borges ne trouvait qu'un avantage à sa cécité, celui de ne pas voir vieillir le visage des femmes qu'il avait aimées. À ses côtés se tenait Maria Kodama. Le grand écrivain voulait voir le dernier film sur la tribu africaine des Boshimans. Boshimans est donc, quand je parlais tout à l'heure, Los Bosquimanos, c'est la traduction espagnole, réalisé par M. Noailles. L'assistante de ce dernier lui racontait bien sûr les séquences du film, il est aveugle, lorsque l'appareil tomba en panne. Rompant le silence, Borges confia qu'il appréciait beaucoup les Negro Spirituals. Aussitôt, son hôte lui proposa d'en écouter a cappella. Alors, quelque chose de merveilleux se produisit. L'assistante de M. Noailles chantait des Negro Spirituals, tandis que Borges récitait en la précédant les paroles. Ému, Carlos Valiente Noailles m'a alors raconté « L'écrivain se tenait là, devant moi, rayonnant de joie, au milieu d'un splendide coucher de soleil, il offrait un merveilleux sourire d'aveugle, sourire empreint de douceur qui éclairait son visage d'une vraie jeunesse, et pourtant l'homme était alors âgé de 86 ans. Il disparut l'année suivante. » Borges adorait être avec Maria Kodama, sa femme qui, comme on le sait, l'a accompagnée dans de nombreux voyages. En vérité, elle a abandonné sa propre carrière littéraire pour mieux s'occuper de lui. Je n'en dirai pas plus par discrétion, même si j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois. C'est une femme absolument adorable. On a oublié que c'est l'écrivain Drieu La Rochelle, souvenons-nous qu'il a été inspiré par l'Argentine, non seulement parce qu'il a eu quelques maîtresses argentines, mais parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « L'homme couvert de femmes », Gallimard 1925. C'est l'écrivain, disais-je, Drieu La Rochelle, qui avant la Seconde Guerre mondiale lança Borges en France. Par la suite, Roger Caillois s'acharna à faire connaître ses contes métaphysiques. Roger Caillois, j'en parlerai une autre fois, qui bien entendu a été l'amant de Victoria Ocampo, Roger Caillois de l'Académie française, convaincu du peu de réalité du monde, l'homme libre, comme l'appelait Octavio Paz, je parle de Borges. Octavio Paz, il faut rappeler le livre magnifique d'Octavio Paz, l'essai magnifique sur la poésie qui s'appelle « L'arc et la lyre », Gallimard, 1965, un des plus beaux livres sur la poésie, fut un grand poète baroquisant, une extraordinaire machine à fabriquer des songes et des récits. Revenons à Borges. Sur fond de labyrinthe ou de pampa, de théologie, une branche de la littérature fantastique, disait-il, ou d'histoire triviale de gauchos, on croise des tigres, des assassins frustres ou raffinés, des hommes à la mémoire fabuleuse, des traites parfois des femmes et aussi des objets inconcevables, a écrit dans un bel article publié dans le Figaro un jour, Hervé de Saint-Hilaire. Celui que l'on a surnommé aussi l'Homère de Buenos Aires a laissé des livres précieux comme l'Alep, 1949, Labyrinthe ou Fiction, 1944. Après avoir plongé quelques minutes précieuses au cœur de cette effervescente littérature argentine, il sera temps de revenir explorer quelques autres moments privilégiés de l'histoire intime de la francophonie et de la francophilie argentine. Elle est en effet d'une richesse insoupçonnée pour les jeunes générations d'aujourd'hui. La prochaine fois, je présenterai la troisième partie de cette introduction à la série à venir des merveilleux francophiles argentins. Merci.